Divers, vous êtes peut-être en train de rater des magnifiques.
Je ne comprends rien à ce qu'il dit sur les ostentations.
Ah, ça ne vaut pas, j'allume la radio.
C'est quoi ça?
Attends, écoute.
Toulouse et l'AC Ajaccio rejoignent dès l'année prochaine la Ligue.
Le Bristol appartient à un groupe qui s'appelle Hautecoeur, c'est une famille allemande.
C'est quoi, adaptation à la gravité.
À l'aller, en fait, tu peux avoir des...
C'est bon ça, on ne parle clairement.
Et c'est sur le 107.5, uniquement le 14 et 15 avril pour la diffusion.
Bonjour et bienvenue sur Chalut la radio. Nous sommes les élèves de 3e prépa métier au lycée de Hurlevent du Tréport. Nous travaillons sur un projet d'écriture de nouvelles policières et avec notre professeur de français, Monsieur Jourdain. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous accueillons Monsieur Patrick Rinald, écrivain de romans policiers, pour lui poser quelques questions sur son métier, son parcours de vie et son écriture. Bonjour Monsieur Rinald, bienvenue sur notre studio. Plusieurs élèves de notre classe sont là pour vous poser des questions. Si vous êtes prêts, nous allons débuter l'interview.
Bonjour, je suis prêt.
Pouvez-vous nous présenter votre parcours professionnel ?
Oula, ça va être long. Mon parcours professionnel, à partir de quand ? À partir de votre âge ? J'ai longtemps été un cancre pas possible. C'est-à-dire que je foutais rien à l'école, je travaillais pas. Et je faisais des tas d'autres choses. Et j'en étais arrivé à avoir fait 3 sixièmes et pratiquement 3 cinquièmes, ce qui est quand même beaucoup, quand je suis tombé sur une dame, Madame Trédès, qui avait un petit cours privé dans lequel on m'a mis. Et cette dame a parfaitement su comment me prendre. Et j'ai sauté deux classes, je suis arrivé en troisième. Et j'ai eu le BEPC, puis j'ai eu le bac, tout allait bien. Et puis j'ai commencé donc à faire des études de lettres, puisque c'était ma véritable passion, la littérature. Et j'ai rencontré, entre-temps, c'était dans les années 60, à la fin des années 60, j'ai rencontré le très puissant mouvement politique qui a fini par mai 68. Et je me suis engagé dedans à fond la caisse, du coup, en négligeant et en arrêtant de mettre carrément mes études, ce qui fait que j'ai pratiquement arrêté la fac. J'ai passé une maîtrise de lettres quand même. Et puis ensuite, j'ai milité vraiment comme un fou, puisque je me suis fait exclure de l'éducation nationale, exclure du lycée dans lequel j'étais prof, et que je suis parti en prison. Pour peu de temps, mais je suis quand même parti en prison à la suite de l'agitation de mai 68 et autres. Quand je suis sorti de là, je me suis marié et j'ai eu un enfant, puis rapidement un deuxième enfant. Et entre-temps, j'ai fait des tas de petits boulots pour essayer de nourrir ma famille. J'ai vendu de l'assurance, enfin j'ai fait des tas de choses. Et puis, un jour, je lisais beaucoup, et parallèlement, j'ai commencé à écrire un roman, et j'ai commencé à signer des articles de critique littéraire dans un journal qui s'appelle toujours Nice Matin, dans lequel je faisais une chronique mensuelle, ce qui m'a remis c'était gratuit, mais ça m'a remis quand même dans la ligne de ce que je voulais avant, c'est-à-dire travailler dans la littérature. Et puis finalement, les chroniques dans Nice Matin sont devenues un peu connues et j'ai été engagé par Le Monde et Télérama. Le roman que j'ai écrit a été publié, s'appelait Un tueur dans les arbres. Et petit à petit, j'ai changé complètement de voie. Je suis devenu écrivain et journaliste à part entière. J'ai quitté la Côte d'Azur pour aller à Paris. Gallimard m'a demandé de diriger la série noire, ce que j'ai accepté, et voilà. Et j'étais dansé. Mais tard, c'est-à-dire que j'avais 40-45 ans quand la littérature est devenue mon métier à plein temps. Voilà, en gros.
Le métier d'auteur est-il difficile ?
J'ai envie de te répondre que d'abord, il n'y a pas de métier facile et il n'y a pas de métier difficile. C'est un peu... par rapport à ce que je faisais avant... Alors, c'est très difficile à te répondre comme question, parce que auteur est-il un métier ? Non. La plupart du temps, les écrivains en France font un autre métier, prof, médecin, assureur, et tout, et publient des livres, et à côté font un métier, il y a beaucoup de médecins, beaucoup de profs. Pourquoi ? Parce que c'est très difficile de gagner de l'argent avec ces livres. Il n'y a que peu d'auteurs qui y arrivent. Généralement, ceux qui arrivent en gagnent beaucoup, mais ils sont très peu nombreux en France. Disons qu'il y a quoi ? Il y a 10% des écrivains français qui gagnent leur métier, c'est-à-dire qui peuvent vivre des bouquins qu'ils écrivent. Les autres se débrouillent, ils font d'autres métiers. Donc en ça, le métier d'auteur est un peu difficile, parce que c'est très difficile d'en vivre. Un livre, ça ne se vend pas très cher, il n'y a pas énormément de lecteurs. Pour vivre de sa plume, disons qu'il faut être sûr de vendre 40 à 50 000 exemplaires de chaque bouquin qu'on publie. Ça ne vous dit pas grand-chose, mais c'est compliqué. Il n'y a pas beaucoup de gens. Alors évidemment, vous avez des gens comme mon ex-ami Pénac qui en vend 1 million. Alors là, il devrait, si le monde était bien fait, il devrait répartir tout ce qu'il gagne sur ceux qui ne gagnent pas assez. Mais ça ne marche pas comme ça. Hein. Et voilà, en ce sens, il est fait. Maintenant, est-ce que c'est difficile à pratiquer ? C'est-à-dire, si ta question est-ce que c'est difficile d'écrire un livre ? Oui, là, c'est d'écrire un livre que tu puisses terminer et qu'un éditeur va prendre et va vendre dans les librairies, c'est pas facile. Il faut, y a beaucoup de gens qui essayent. Beaucoup de gens. Quand j'étais directeur de la Série Noire, je recevais, quoi, 5 ou 6 manuscrits par jour. Et j'en publiais 2 par an. Donc, tu vois, à peu près, enfin, 2 par an. J'en publiais plus que ça par an. Mais parmi les gens qui m'envoyaient un manuscrit par la poste, il y en a 2 ou 3 qui sortaient par an. Voilà, ça, c'est difficile d'écrire un livre. Je suppose qu'on va y revenir, mais ça demande un certain nombre de qualités. Et pas simplement de ne pas faire de faute d'orthographe. C'est le moins important. Pourquoi ? Parce qu'il y a des correcteurs dans les maisons d'édition.
Pourquoi écrire spécifiquement des romans policiers ?
Alors, on va préciser une chose. Le mot important dans roman policier, c'est roman. C'est-à-dire que la question, elle devrait être, pourquoi avoir choisi d'écrire des romans ? Pourquoi dans toutes les manifestations de la littérature, le théâtre, la philosophie, les essais, l'histoire, les récits, la poésie, l'érotisme, pourquoi je préfère, moi, écrire des romans policiers ? Alors, j'insiste sur le terme roman ? Parce que le roman est un genre à lui tout seul. Dans le roman, d'un côté, il y a Flaubert, de l'autre côté, il y a San Antonio. Voilà, tout ça, c'est du roman. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un roman ? Un roman, c'est une fiction. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire par fiction ? C'est-à-dire, c'est une histoire qui ne s'est jamais passée, ou tout au moins qui ne s'est jamais passée comme elle est livrée dans le roman. C'est une histoire totalement inventée, même si elle est inventée avec des morceaux de réalité. C'est comme le yaourt Danone aux fruits. Vous avez une sauce, et dans la sauce, vous avez des morceaux de fruits. Et ben, dans le roman, vous avez des morceaux de réalité. La plupart des romanciers incluent dans leur roman des tranches de vie réelle. Moi, c'est vrai que mes romans parlent beaucoup de moi, parlent beaucoup de ma famille, mais de façon cachée, sous la forme des personnages. Même si vous allez trouver, par exemple, que certains personnages ressemblent à des gens que vous connaissez. Ça fait rien, ça fait partie du roman. Donc le roman, c'est ça, c'est un assemblage de personnages qui racontent, c'est des personnages qui racontent une histoire qui, elle, est totalement inventée. Voilà. Alors, une fois que vous avez ça en tête, une fois que vous avez le roman en tête, vous pouvez faire du roman historique avec des personnages historiques, du roman policier, on va voir, qui s'axe sur un crime, un délit, on y reviendra sur le roman policier. De la poésie, enfin voilà, on peut faire des tas de choses. Mais l'important, c'est roman. Avant de faire un roman qui soit policier ou historique, il faut construire un roman, c'est-à-dire une histoire avec des personnages et une histoire qui tienne la route, une histoire qui vous fasse croire, qui font croire au lecteur, qui font marcher le lecteur. Si le lecteur s'en va au bout de 2 pages, c'est loupé. Donc voilà, l'important là-dedans, c'est roman.
Comment fonctionne votre imagination ? D'où vient votre inspiration ?
Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Alors, je vais quand même te dire, te poser une question. Comment tu définirais, comment tu définirais l'inspiration ?
Bah, je ne sais pas.
Ah oui, mais avant de poser la question, il faut que tu saches ce que tu veux dire. Si, tu sais ce que c'est. Quand tu demandes l'inspiration, tu veux, t'es timide là, mais tu veux... qu'est-ce que c'est pour toi l'inspiration ?
Bah, c'est des idées qui nous viennent.
Voilà, c'est les idées qui nous viennent. Alors là-dedans, il y a deux clichés, c'est-à-dire l'idée traditionnelle du poète comme ça, qui attend, venant de je ne sais pas où, quelqu'un de ne sais pas où, qui lui enverrait comme ça des flèches d'inspiration qui lui traverseraient la tête, et dès qu'une tèche le touche, une flèche le touche, il se mettrait à écrire. C'est peut-être vrai pour la poésie pure, c'est pas vrai pour le roman, parce que si tu attends comme ça, sans rien faire, que l'inspiration t'arrive, tu risques de terminer ta vie sans avoir écrit une ligne. Donc l'inspiration, c'est avant tout une réflexion. Il y a un grand écrivain américain qui disait l'inspiration 2%, la transpiration 98%. C'est-à-dire que c'est du travail. Il faut réfléchir. Quand tu as une idée, il faut la creuser. Il faut voir si elle amène à quelque chose, si elle n'a pas déjà été 46 000 fois exploitée par d'autres écrivains. Enfin, c'est vraiment du boulot. Une fois que tu as ton idée principale, il faut chercher les personnages, il faut travailler les dialogues, tout ça c'est du boulot. Donc l'inspiration, je n'y crois. L'inspiration, si tu veux, ça peut représenter. C'est ce que je cherche en ce moment. J'ai pratiquement fini un roman et je pense déjà à en écrire un autre. Et je ne sais pas très bien de quoi je voudrais envie de parler. Toi, alors ça c'est un peu ça l'inspiration. J'attends d'avoir une idée qui me semble bien pour faire le... Et après, une fois que j'aurai l'idée, ben après, ça sera du travail. Même si la transpiration, c'est pas la même que pour quelqu'un qui travaille de ses mains et de ses bras. Mais enfin, c'est du boulot. Ça, c'est un truc que j'ai découvert aussi, je pense, à vous et à votre jeune âge. C'est qu'il n'y a rien sans boulot. C'est bordélique. Hein. Tout ce qu'on doit faire, même si on dit « je vais faire un truc cool, formidable, je vais être... » Ben non. Même les rappeurs qui ont l'air de glandeurs pas possibles, qui s'amusent et tout, ils bossent comme des dingues pour écrire leurs textes. Tout ça, c'est... Donc après, il faut se mettre au boulot. Mais pour répondre à la question d'avant, c'est pas dur à partir du moment où on a choisi ça. Et où... Moi, quand je suis au travail, j'adore ça. Enfin, grosso modo. Mais disons que j'aime bien travailler, j'aime bien écrire, j'aime bien... Voilà. Donc, voilà pour l'inspiration. Et qu'est-ce que tu étais avant ?
Comment fonctionne votre imagination ?
Ça, c'est... Je ne sais pas. Ça, c'est un... L'imagination, tu sais, c'est un... C'est un mot qui recouvre... on ne sait pas trop. L'imagination, c'est le regard que tu vas porter sur la vie naturelle et comment tu vas interpréter cette vie à ta manière. L'imagination, c'est ta cuisine de la vie, c'est-à-dire comment tu vas, c'est à quelle sauce tu vas aménager tes histoires. Suppose que tu aies envie de raconter un truc classique, un petit béguin que tu as avec un garçon ou avec une fille. D'ailleurs, rien de plus banal. Comment toi, tu vas raconter cette histoire ? Comment toi, tu vas raconter cette histoire ? De ton point de vue, ce qui est formidable, mais ce qui est plus facile parce que tu l'as déjà vécu, mais comment tu vas la raconter du point de vue du garçon ? C'est beaucoup plus compliqué, parce que personne ne sait ce que l'autre pense. Donc, quand tu veux travailler sur un roman et que tu veux t'imaginer ce que l'autre pense, tu es obligé d'inventer totalement. La seule personne que tu connaisses à peu près bien, c'est toi. Les autres, non. Tu crois. Donc, quand tu veux les mettre en scène dans un livre ou une pièce de théâtre ou un dialogue, il faut que tu te mettes à sa place. Donc, il faut que tu imagines. Donc, l'imagination, c'est la rivière dans laquelle tout est emporté, tes idées, tes personnages et tout. C'est ce qui coule autour. Et l'imagination, elle est forcément totalement personnelle. Et tu peux pas ça. Il y a pas de question de raison ou tort. C'est ça qui est bien dans le roman. On peut pas te dire ah bah non, ton personnage il a tort. Non, il a pas tort. Il est ce qu'il est. Voilà. Donc l'imagination c'est ça. C'est très difficile à. L'imagination c'est. Tu vis tout le temps sous ton imagination et tout ton imaginaire. Quand tu penses, quand tu rêves, quand tu fais des histoires, quand tu. C'est ton imagination qui travaille. Alors après, comment domestiquer son imagination pour en faire une peinture, un roman, un morceau de musique, pour en faire de l'art, ça c'est autre chose, c'est un travail particulier. Je vais revenir beaucoup sur le terme de travail, je vais vous décevoir un peu. Oui.
Est-ce que certains de vos livres sont traduits dans d'autres langues?
Oui. Beaucoup en Allemagne, beaucoup en grec, beaucoup en italien, beaucoup en Pologne, enfin bref, ils sont traduits. Comment je suis venu à l'idée d'être écrivain? Ça, c'est une très bonne question. Je suis venu à l'idée d'écrivain parce que je suis un énorme lecteur depuis tout petit, même quand j'étais cancre. En fait, je suis devenu cancre parce que ma mère m'avait appris à lire très tôt. Ma mère avait une grosse bibliothèque avec des tas de bouquins. À 13-14 ans, j'ai découvert la lecture. Je me suis enfoncé dans la bibliothèque de ma mère et j'ai décidé que tout le reste n'avait aucune importance. Et à ce moment-là, à partir de ce moment-là, j'ai rien foutu à l'école. Donc à force de lire, de découvrir des histoires, de découvrir le monde à travers des personnages, de découvrir des mondes fabuleux. À un moment, je lisais que des histoires d'animaux. Jack London. Puis ensuite, beaucoup plus tard, après la fac, je suis tombé dans le grand piège à l'époque, dans les années 70, c'était la science-fiction. On ne connaissait pas encore bien la science-fiction, c'était surtout un genre anglo-saxon. Et là, pendant je ne sais pas combien d'années, j'ai dévoré de la science-fiction. Or, la science-fiction, c'est vraiment très, très fort pour l'imaginaire, parce que ça te propose un monde alors là, qui est complètement éloigné du tien, qui se passe dans 3 ou 4 000 ans, dans des étoiles. Bon, voilà. Donc, c'est en lisant, qu'un jour, je me suis dit, mais pourquoi tu... C'est devenu comme ça. Tu sais, la petite idée qui s'insinue dans ton cerveau, et puis comme une petite souris, puis qui grignote. Et cette petite idée, elle disait, mais pourquoi tu n'écrirais pas tes propres histoires? Pourquoi toi aussi, tu n'essayerais pas d'en inventer? Alors, c'est ce que j'ai commencé à faire. J'ai écrit des petits textes, des nouvelles. Je me suis aperçu que ça venait plutôt bien, que j'arrivais à plier la langue, parce que quand vous commencez à écrire, la première chose à laquelle vous allez vous heurter, et vous ne vous rendez pas trop compte avant, c'est la langue. C'est-à-dire cet ustensile que vous employez tout le temps pour parler, pour écrire la liste des commissions, vos devoirs et tout, vous allez devoir la façonner pour qu'elle exprime exactement ce que vous pensez, et avec le plus de précision et de fantaisie possible. Pour essayer de pas écrire quelque chose qui soit chiant, il faut quelque chose qui soit un petit peu différent des autres et qui soit surtout très très près de ce que vous avez envie de dire. Si vous écrivez une histoire, vous avez cette histoire très précisément dans la tête. Quand vous allez la communiquer, c'est-à-dire l'écrire pour que votre lecteur éprouve les mêmes sentiments. Il va falloir être... C'est comme un sculpteur qui sculpte parfaitement le plâtre ou comme un peintre. C'est pareil. Les arts sont tous les mêmes. Ou comme un peintre qui va recommencer 1000 fois un portrait parce que le rendu, ce qu'il fait, ne le satisfait pas. Ce n'est pas exactement l'image qu'il voulait donner. Donc, il va reprendre sur sa palette et il va essayer de rectifier pour que sur la toile, il y ait exactement ce qu'il a envie qu'il soit. Ben, l'écriture, c'est pareil, seulement le matériau, c'est pas le plâtre, la pierre ou la peinture, c'est les mots. Alors des mots, vous en avez un paquet. Hein. Regardez simplement la différence qu'il peut y avoir entre le petit dictionnaire dont vous vous usez tous les jours et le littré en 6 volumes. Et si vous voulez, il n'y a pas de grande différence entre les deux. Dans les deux, il y a des mots, mais il y en a un où il y en a beaucoup plus et beaucoup plus précis. Donc voilà. Et lorsque vous commencez à vous voir, c'est pas tout de suite, hein, mais il faut travailler, encore une fois le travail. Lorsque vous commencez à vous apercevoir que ça va, vous êtes à l'aise avec, avec les mots, avec le rendu, ça vous allez vous rendre compte en classe quand vous vous rendez compte que un sujet de rédaction ou un sujet de dissertation, vous arrivez un petit peu à exprimer, à dire exactement ce que vous pensez. C'est ça le problème. Vous allez avoir une bonne note. Pourquoi ? Parce que votre écriture va être je trouve pas le mot, avec votre expression. Voilà. Et puis, une fois que ça a commencé à marcher, que vous vous dites... je sais faire, ça va, vous commencez. Et vous écrivez votre premier roman. Et moi, j'ai eu une chance incroyable, c'est-à-dire que j'ai écrit mon premier roman. D'abord, je suis parvenu à le finir, parce qu'avant de finir mon premier roman, j'avais écrit 10 premiers chapitres. J'étais le champion du premier chapitre. J'écrivais des premiers chapitres formidables, mais question de passer au deuxième, non, il n'y avait plus personne. Donc, je suis arrivé à le finir, ce qui était une victoire absolument incroyable. Et il a été publié, ce qui... Alors là, ne parlons pas. Mais tout ça, ça représente quand même 10 ans. Entre le moment où je me suis dit « je vais écrire » et le moment où j'ai fini mon premier roman qui a été publié, il y a 10 ans. Hein. C'est-à-dire que... Voilà.
Comment est née l'idée de l'histoire du médaillon ?
Alors... C'est une idée de parents d'élèves, et c'est une idée très très parisienne ou très 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 urbaine. Parents d'élèves, c'est-à-dire que quand vous êtes parents d'élèves et que vos enfants, j'en ai eu 3, vont dans un lycée parisien, vous avez très peur du racket. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a je sais pas maintenant, parce que maintenant mes enfants, ils en ont des enfants à eux, c'est à eux de se faire du souci pour le racket. Mais voilà. Et la question, c'est comment je réagirais si mes enfants se faisaient racketter. Le dernier s'est fait racketter. On s'est arrangé. Enfin bref. Et je me suis dit, ce qui serait marrant d'écrire, et ce qui serait en plus conforme à mon statut de roman policier et à ma réalité de père, ce serait que mettre un enfant qui se débrouille tout seul. Et je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait faire qu'un enfant se débrouille tout seul une fois qu'il est racketté ? Pour que ça marche, l'histoire, il faut qu'on lui vole quelque chose d'irremplaçable. Son cartable, hein. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais sans piquer mon cartable. Oui, voilà, exactement. Je n'irai pas traverser les banlieues pour récupérer mon cartable. Mon machin à écouter la musique, là, quel que soit... comment ça s'appelait du temps de mes enfants ?
Un casque. Un casque.
Non, là, oula, fou. Un Walkman, voilà. Non plus. Il faudrait que ce soit quelque chose qui le touche au cœur et qui lui donne envie de vaincre sa peur. C'est-à-dire qu'il dit, non, je ne peux pas rentrer chez moi si je n'ai pas ça. Je ne peux pas rentrer chez moi et dire à ma mère, on m'a volé le médaillon. Voilà. Et dans le cartable qu'on lui vole, il y a un petit médaillon qui a une valeur énorme pour lui, parce qu'elle a une valeur, il a une valeur sentimentale, il a une valeur... Bon. Et donc, à partir de là, il décide de passer la barrière. Alors, c'est un, passer la barrière de sa peur, et deux, passer la barrière presque physique, dans une grande ville comme Paris, entre la ville et la banlieue. C'est-à-dire de s'enfoncer dans la jungle. Si j'avais écrit le médaillon qui se passe en Afrique, le héros, il aurait quitté le village pour s'enfoncer dans la jungle. Là, c'est un peu ça. Il s'enfonce dans un truc qui fait peur, mais qui fait peur parce qu'on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. C'est une paire qui est construite de tout ce que disent les autres. Bah, voilà, c'est dangereux. Il y a des Arabes, il y a des Noirs, il y a des... Non, il ne faut pas... Bon. Et, mais en fait, le Manu, il ne sait pas du tout ce qu'il a jamais mis les pieds. Donc voilà, je me suis dit, je vais raconter une histoire. Quand on écrit des histoires pour les enfants, j'en écris pas assez, malheureusement. Il y a un thème qui s'impose immédiatement, et une notion qui s'impose immédiatement, c'est la notion de rite initiatique. C'est-à-dire la chose que vous allez faire et qui va vous faire passer de l'enfance à l'adulte. C'est-à-dire vaincre sa peur, aller dans une banlieue où il ne connaît personne, se forcer à faire quelque chose qu'il n'aurait fait autrement. Voilà, c'est ça l'initiation, et c'est ça qui va le transformer. Parce que j'ai un peu l'esprit de l'escalier, hein, donc il faut se raccrocher à tout ce que je dis. Parce que qu'est-ce qui est essentiel dans un roman ? Quel policier, amoureux, historique et tout, ce qui est essentiel, c'est la transformation du héros. Il faut que dans un roman, le héros ou l'héroïne sorte du roman différent de quand il est rentré. Il faut qu'il ait acquis quelque chose. Que ce soit dans les romans, bien, que ce soit chez Flaubert dans Madame Bovary, Madame Bovary sort du roman complètement différente de ce qu'elle est rentrée. Elle est rentrée genoise, bourgeoise, craintive. Elle en sort, femme. Voilà. Donc, je me suis dit, c'est ça. Et quel peut être le rite initiatique d'un petit collégien des banlieues, d'un arrondissement plutôt friqué dans un grand collège ? C'est brusquement de se dire, ah là là, je ne peux pas rentrer chez moi si je ne retrouve pas ça. Et donc, de passer la barrière et d'aller le chercher dans un endroit dangereux. Voilà. À partir de là, on peut faire tas d'autres choses. Mais moi, c'était la banlieue qui m'amusait, parce qu'il y a des tas de personnages rigolos dans la banlieue. Et surtout, ce qui est drôle, ça vous le voyez souvent au cinéma, c'est quand on vainc sa peur, on s'aperçoit que la personne qui vous fait peur, ben, elle n'est pas du tout terrifiante. Quand Manu va s'adresser au gros mage noir, impressionnant, qui distribue des petites cartes pour se faire désenvoûter et tout, il s'aperçoit que c'est en fait un monsieur très gentil. Et tout au long, en avançant, il s'aperçoit qu'en fait, ses peurs sont pas justifiées et que ces gens autour de lui, ils vont les prendre, quoi. Voilà. Mais c'est pour... C'est un conte pour jeunes de 11-12 ans. Hein, voilà. Mais un grand roman, un roman policier pour adultes, il va suivre les mêmes... ça va être pareil. Seulement, il va y avoir, si on veut, des pistolets, des bazookas, des avions de chasse, enfin, tout. On multiplie les dangers et on multiplie les récompenses aussi. Mais, c'est le même schéma. L'ai-je bien répondu ? Oui.
Dans quelle pièce aimez-vous écrire ?
Dans quelle pièce ?
Oui.
Alors moi, j'aime écrire dans mon fœtus. C'est-à-dire, je me mets dans un petit bureau, fermé, entouré de tous mes livres, avec ma musique, et le silence à part ma musique. La musique, c'est toujours la même, ce qui fait qu'au bout d'un moment, je l'entends plus. Mais si je l'arrête, ça me manque. Alors j'écoute généralement du blues, du jazz et du reggae, mais essentiellement du blues. Et là, pendant un moment, je fumais, mais bon, j'ai fini par arrêter parce que je peux pas vous dire pourquoi j'ai arrêté de fumer. Bon, et voilà, c'est cette pièce là. J'ai beaucoup de mal à écrire ailleurs. J'essaye un peu, mais j'écris bien que là. Oui.
Et à quel moment de la journée ?
Ça a bougé beaucoup. À un moment, quand j'étais jeune, j'écrivais la nuit. Puis, c'est compliqué d'écrire la nuit, parce que si on travaille le jour, il faut... Donc maintenant, j'écris le matin. Quand j'écris le matin tôt, je m'arrête à midi. Et maintenant que je suis un petit peu vieux pour les efforts qu'on touche, j'écris le matin. J'écris à partir de 9h du matin jusqu'à midi, mais j'ai plus besoin d'écrire beaucoup.
Fréquence, du coup.
Tous les jours.
D'accord.
Non. Tous les jours, ça c'est ce que je dis chaque premier de l'an. À mon réveil, je dis, ah, cette année, je vais écrire tous les jours. En fait, non. Mais bon, j'écris de quoi produire un roman par an.
Avez-vous seulement écrit des romans policiers ?
Que des romans policiers ? Non. Non, j'ai écrit un... Mais moi, c'est pas vraiment des romans policiers, moi. C'est-à-dire qu'à part certains, il n'y a pas de policiers qui courent après... C'est plutôt des romans noirs, c'est-à-dire des romans qui explorent le côté sombre de l'univers. Des romans qui vont voir un peu ce qui... je veux dire, le roman blanc, je vais vous faire une distinction. Le roman blanc, c'est un roman qui vous balade dans une pièce assez propre et où il y a des trucs, évidemment, il y a des choses qui clochent un peu, mais enfin, ils sont arrangés, on fait bien la poussière et tout. Le roman noir, c'est un roman où on va voir ce que le roman blanc a mis sous le tapis. C'est-à-dire, on va soulever le tapis pour voir la poussière, c'est-à-dire tout ce qui ne se dit pas, tout ce qui ne se dit pas dans les journaux, tout ce qui est horrible, tout ce qui est politiquement pas correct, tout ce qui trouble la société, tout ce qui fait que le monde n'est pas aussi beau qu'on nous le promet, et que chacun de vous sait qu'on ne vit pas dans une pure démocratie où les gens heureux sont des gens qui ont absolument mérité d'être heureux, les riches sont des gens qui ont absolument ménagé leur fortune, et les pauvres, c'est bien fait pour eux. C'est parce qu'ils font pas, ils refusent de partir à la retraite à 65 ans, voire même à 70 dans certains pays. Voilà, là j'exagère un peu, mais c'est d'actualité. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe vraiment dans ce monde ? Le roman noir, c'est le roman du dysfonctionnement. Ouais, est-ce que vous voyez ce que ça veut dire, dysfonctionnement ? C'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Pourquoi ça merde ? Pourquoi ça cloche ? Pourquoi régulièrement les gens sont dans la rue ? Pourquoi les prisons sont trop pleines ? Pourquoi les flics tapent toujours plus sur les noirs que sur les blancs ? Pourquoi ? Voilà. Ça, c'est le sujet même du roman noir. Alors, comme c'est un roman qui dérange un petit peu, il a été classé... un petit peu aussi avec le bon vouloir des auteurs, ça a été classé globalement dans le roman policier au roman noir. Mais si on prend le terme propre du roman policier, le roman policier, c'est un roman où il y a eu un délit quelconque, un meurtre, un vol, tout ce qu'on veut, et où il y a un policier, c'est-à-dire quelqu'un qui représente l'autorité publique, chargé de trouver le délinquant. Bon, le roman policier moderne a dépassé ces bandes depuis longtemps. Vous me dites si vous ne comprenez pas. Hein, si je... Oui.
Quel ressenti avez-vous quand vous écrivez vos livres ?
Quel est ?
Le ressenti que vous avez quand vous écrivez vos livres.
Le ressenti que j'ai ?
Oui.
Qu'est-ce que tu veux dire ? Comment je me sens, moi ?
Oui.
Ouais. C'est très difficile à analyser parce que quand je suis en période, quand ça chauffe là, que j'écris, que je trouve les mots, que ça vient, je suis un peu comme un moteur en surchauffe. C'est-à-dire que ça bourbe, je suis assez excité, j'oublie complètement le temps. C'est-à-dire que je peux passer travailler 2 heures sans m'apercevoir de ce qui s'est passé. C'est-à-dire de... Et puis après, il y a une autre période, il y a plusieurs autres périodes. Il y a la période d'après où je relis ce que j'ai fait. Et quelquefois, je suis beaucoup moins excité, beaucoup moins content que quand je l'ai écrit. Il y a d'autres fois où je suis plutôt content. Et puis il y a d'autres fois, quand c'est publié, où j'ai envie de jeter le livre à la poubelle parce que je trouve que ça ne correspond pas du tout. Voilà. Le ressenti du moment, c'est généralement un ressenti d'excitation. Ou de de peine et de désespoir, mais si quand ça va, quand c'est vraiment toute la journée, toute la séance de travail où je ne peux pas supporter ce que je fais, j'arrête. Mais quand j'écris vraiment et que ça marche, je suis plutôt excité.
Quel est votre roman préféré et pourquoi ?
Je crois que c'est... J'ai oublié le titre. Né de fils inconnu. Pourquoi ? Parce que c'est un roman où je... Comme on le disait tout à l'heure, je cherchais l'inspiration. Et je cherchais... Et je me posais une question, comme ça. Est-ce que le lien qui relie un enfant à sa mère est aussi fort que celui qui relie un enfant à son père? C'est-à-dire, est-ce que le fait de porter un enfant dans sa chair pendant 9 mois ne modifiait pas totalement le rapport qu'on a avec cet enfant? C'est-à-dire, est-ce qu'un père peut être aussi attaché viscéralement à ses enfants que l'est une mère, justement, parce que dans le cas de la mère, il y a justement, c'est viscéral, elle l'a, ils ont fait qu'un pendant 9 mois, et alors que le père, il attend à la sortie, si j'ose dire, et il fume des cigarettes le jour de, enfin maintenant c'est plus fini, puisque maintenant on peut assister la mère pendant l'accouchement, mais avant c'était caractéristique, c'est-à-dire on avait une femme qui portait son enfant dans l'indifférence générale, parce que à l'époque on faisait pas tellement attention aux femmes. Ensuite, elle avait une nuit ou une journée extrêmement difficile de souffrance pendant laquelle le père allait voir ses copains, buvait des coups, fumait des clopes en attendant. Puis ensuite, il se retrouvait comme ça avec une espèce de poupon rougeau hurlard qui découvrait totalement et qu'il fallait brusquement qu'il fasse rentrer dans son affectif. Alors, on y arrivait. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est... Alors, donc, j'ai inventé une histoire où un type de 40 ans découvre qu'il a un fils, que ce fils est en danger de mort et qu'il ne le connaît pas. Mais est-ce que la paternité va se faire ressentir aussi sur eux ? Je ne parle pas français, là. Est-ce qu'il va ressentir sa paternité aussi fort qu'il ressentit sa maternité ? Voilà. Et j'écris un roman là-dessus. Donc peut-être cette interrogation au départ, c'est très très fort hein, d'avoir des c'est très fort, c'est très compliqué d'être père. Hein. Voilà. On se demande toujours si on a bien fait les choses, on se demande toujours si on n'est pas passé complètement à côté de l'histoire. On se demande voilà. Donc c'est celui que je préfère, je crois.
Avez-vous des contacts avec vos lecteurs ?
Ben oui, là, je suis en plein contact avec mes lecteurs là. Oui, j'en ai régulièrement. Dit-on qu'il y a des festivals, des salons du livre, d'ailleurs, si il faut que vous veniez là au mois de mai, on va refaire le salon du livre du Tréport et où il y a des auteurs, des tas d'auteurs avec qui vous pouvez discuter. C'est pas simplement, faut pas être timide. Et là, j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir, qui viennent acheter des livres, qui disent ah bah oui, j'ai lu le dernier, ou oui, j'ai des contacts.
Est-ce qu'il y a un travail préparatoire de documentation pour écrire une histoire ?
Alors. C'est une très très bonne question. Vous avez tous compris. Est-ce qu'il y a un travail préparatoire de préparation ? Préparatoire de préparation, c'est un peu pléonastique, mais on s'en fout. Avant, non. Avant, pendant très longtemps, je n'ai écrit. Enfin, je vérifiais des choses pendant que j'écrivais, des faits, des dates ou des choses, mais je ne préparais pas. Maintenant, je crois que je vais... Le dernier, ce que j'étais en train de faire, il y a un gros, gros, gros travail de préparation, dont je suis... de documentation même. Et je crois que le prochain va être complètement basé sur de la doc. Parce que j'en ai un peu marre de puiser toute la doc dans moi, tout d'inventer à partir de personnages que j'aurais pu être. Au début, c'est très excitant. Mon premier roman s'appelait Willy le chevalier des mers, et c'était pendant que je redoublais ma deuxième cinquième. Et j'étais avec un copain qui faisait des dessins formidables, et j'étais en pension. Et on s'était dit, tiens, si on faisait un roman. Et alors, pendant l'étude, au lieu de travailler scolairement, on travaillait pour la littérature. C'est-à-dire que j'écrivais un roman de corsaire, et lui faisait les dessins. Et c'est là que j'ai commencé c'était longtemps avant mon premier roman, mais en fait, c'est là que j'ai commencé à me mettre en scène. Parce qu'évidemment, quand j'avais 14 ans, Willy, le chevalier des mers, le corsaire, c'était moi. Voilà. Mais je crois que maintenant, je vais travailler avec la doc. C'est plus facile et... Ouais, je sais pas. Je reviendrai l'année prochaine. Mais oui, il y a beaucoup d'écrivains, énormément d'écrivains qui travaillent avec de la doc. Et donc, moi, je l'ai pas encore fait, mais je crois que si je prends pas totalement ma retraite, ce qui serait temps quand même, je crois que je vais le faire.
Comment construisez-vous vos scénarios ?
Vous avez des questions. Il y a deux types. J'ai rencontré, vous en doutez, à 76 ans, 77, même, j'ai rencontré tout un tas d'écrivains. Je les ai rencontrés en tant qu'éditeur, je les ai rencontrés en tant que copain, en tant que co-auteur dans les salons où j'allais. Et chaque fois qu'on discute entre auteurs, c'est comment tu fais, toi ? Et alors, on essaye d'échanger des tuyaux. Or, il n'y a pas de tuyaux. Alors, il y a deux façons pour construire le scénario. Ce n'est pas un scénario. Hein. Attention, entendons-le bien. Un livre, un roman, ce n'est pas du tout un scénario. C'est-à-dire que ça ne se travaille pas du tout de la même façon. Pourquoi ? Parce qu'un scénario, c'est un document qui va servir à faire autre chose. Un scénario, c'est un document préparatoire pour un film. C'est-à-dire qu'une fois que le metteur en scène a ce document préparatoire dans les mains, il va construire dessus son film. Mais il faut qu'il sache tout. Autrement dit, le scénario, à mesure qu'il avance, indique tout ce que doit filmer la caméra, y compris la fin. Alors que moi, quand je commence un roman, je ne sais pas du tout comment il va finir. Je ne sais même pas du tout comment je vais finir le premier chapitre. C'est une différence. Vous ne pouvez pas construire un scénario comme un roman. Alors, moi, je construis un scénario. Je n'en construis pas, d'abord, pour un roman. Je commence, et puis je verrai bien où ça me mène, au fur et à mesure de mon écriture. Alors, où ça me mène, c'est... on a des personnages en tête, un personnage principal, ce qu'il fait, les problèmes devant lesquels il va se trouver, les personnages qu'il va rencontrer, comment il va se transformer à fur et à mesure qu'il rencontre ces personnages. C'est-à-dire que si votre personnage principal, ou tous les personnages, si un personnage est le même à la fin du roman qu'au début, votre roman, vous pouvez le mettre à la poubelle, c'est qu'il ne s'est rien passé et que c'est bon. Un roman, c'est avant tout l'histoire de la transformation d'un personnage. On va simplifier, hein. Un méchant qui devient bon ou un bon qui devient méchant. Donc pour ça, pour qu'il se transforme, il faut lui faire rencontrer des événements et des personnages. Autrement dit, donc il faut raconter les événements, mais surtout, qu'est-ce qu'il faut ? Et là, c'est vous qui allez me le dire. Qu'est-ce qu'il faut comme outil littéraire pour que le personnage se transforme ? Pour que le lecteur sente que le personnage se transforme.
Avec l'envie.
Avec ?
L'envie.
Ouais, l'envie, mais quoi ? Comment s'exprime cette envie ? Il faut toujours que tu raisonnes en fonction d'expression, c'est-à-dire comment tu vas communiquer à ton lecteur qui, lui, ne sait pas du tout ce que tu as dans la tête, ni ne sait rien de l'histoire au début. Comment tu vas communiquer, comment vous allez communiquer à ce lecteur le devenir de ces personnages ? Comment ils vont vivre ? Comment vous allez faire au début qu'il apparaît comme une sale tête de... on a compris, et après, qu'il va me dire ? Comment vous allez qu'est-ce qu'il va faire ? Prenons le cas bien simple. Il tombe amoureux. Comment vous allez manifester le fait qu'il tombe amoureux ? Bon, une fois que vous aurez dit le personnage ressent en lui un grand trouble, d'accord, mais comment il va témoigner de cet amour? Comment il va... Qu'est-ce qui est essentiel? C'est essentiel dans, tout le monde participe là. Au cinéma. Qu'est-ce qui vous fait comprendre ce qui se passe?
Les expressions.
Les expressions, ok, mais c'est tellement évident que vous l'avez dans la tête et que personne. Quelque chose qui est. Imaginez un film sans.
Sans action.
Sans.
Sans action.
Oui, l'action, mais.
Les détails.
Ça commence par un D aussi. Mais c'est pas... Qu'est-ce qu'ils font, les gens, au cinéma et dans le roman? Ils...
Discutent.
Non, ils se tuent pas tout le temps.
Non, ils discutent.
Ils discutent, exactement. Donc, sans dialogue. L'essentiel de truc, c'est le dialogue. C'est-à-dire que comment vous pouvez savoir ce que pense un personnage s'il ne dit pas ce qu'il pense à un autre? Et comment vous pouvez savoir que cet autre est d'accord s'il ne se fout pas sur la gueule avec le premier? Donc, l'essentiel de tout ça, c'est qu'il faut que ça brasse. Et les dialogues, en plus, ont un avantage formidable, c'est que ça peut être drôle, que ça peut être dérangeant. Et vous pouvez faire ce que vous voulez avec un dialogue. Vous pouvez faire un dialogue, moi, ça m'amuse quelquefois de le faire, vous avez un personnage qui ne répond jamais aux questions qu'on pose. Jamais. Il répond autre chose. Alors, ça a un avantage, c'est que ça fout en boule celui de l'autre côté. Et puis, ça donne des choses rigolotes. Parce que, voilà, qu'est-ce qu'il va répondre? Et il faut toujours quand même que la réponse, même si ce n'est pas une réponse, même si c'est une autre question, ait un rapport avec le précédent. Voilà. Donc, le dialogue, c'est un outil très, très, très malléable. C'est formidable. Et à la fin, avec le dialogue, vous allez savoir... ce que pense. Alors, vous pouvez évidemment dire, utiliser la voix intérieure, qui est la voix du romancier, dire John pensa vraiment que Céline était. Bon, mais c'est un peu ennuyeux, à moins que vous vouliez faire Proust. Si vous voulez refaire La recherche du temps perdu, oui, mais mettez-vous y tout de suite. Vous savez pas qui est Proust, hein? Bon, vous avez le temps. Oui.
Avez-vous vécu dans les villes que vous évoquez?
Dans
les villes que vous avez évoquées dans vos
livres. Les villes?
Oui.
Beaucoup, oui, beaucoup, parce que quand je tombe amoureux d'une ville, et ça m'arrive assez souvent, je la remets en scène. Alors, il y a ma ville principale, qui est Nice, qui est la ville où se passent la plupart de mes romans. Il y a New York, dont je suis amoureux, je suis allé plusieurs fois, je suis même allé écrire un roman à New York. Il y a le Mexique, enfin, il y a beaucoup de villes où je suis allé que j'aime beaucoup, mais Istanbul, vous savez, mais quand j'y suis pas allé, j'invente. Hein. Alors oui, alors la doc, qu'est-ce que j'ai comme, tiens, pour reprendre ta question, qu'est-ce que j'ai comme doc à la maison? J'ai une quantité incroyable de livres de voyage et de guides de ville. Voilà. Ce qui fait que quand je suis un peu en panne, je file dans ma bibliothèque, je prends le guide de New York et je sais enfin où donne la rue machin, pour pouvoir être précis dans l'écriture. Et puis surtout, ça te donne une idée de l'atmosphère, et ça te donne des anecdotes et tout qui font vrai, même si elles sont, voilà. Oui, les villes, oui, parce que moi j'écris des romans essentiellement urbains, donc pour moi les villes c'est très important. Mais j'écris pas quand j'écris sur une ville. Même si je m'appuie après sur des guides, c'est que la ville m'a impressionné et que j'ai envie d'écrire dessus.
Est-ce que vous inspirez de l'actualité pour écrire vos histoires?
Oui, oui, parce que oui, je m'inspire de l'actualité, mais je m'inspire de l'actualité de façon en toile de fond, c'est-à-dire que je fais pas de roman sur les faits divers. Je peux m'emparer d'un fait divers, mais en revanche, la toile de fond, et en particulier la toile de fond politique de mes romans, est très importante. Oui, je m'inspire. C'est pas que je m'inspire, c'est que je peins sur un fond. J'aime bien assimiler la peinture et l'écriture. D'abord parce que je peins comme un comme un ours et que je dessine plus mal que mon petit gosse, mon petit fils qui a 2 ans. Mais ça me manque, j'aimerais bien dessiner. Et je trouve que j'ai vu travailler des peintres, mon fils aîné était peintre, j'ai vu travailler des peintres et je me rends compte des similitudes qu'il y a entre la... Un peintre, quand il commence une toile, on a l'impression qu'il sait pas du tout ce qu'il fait. Il met un coup de... Pour un profane qui est derrière, il dit, tiens, il met un coup de rouge, là, qu'est-ce que ça va donner après ? C'est un peu ça sur l'écriture. Et il y a une peinture que j'aime, un type de peinture, une école de peinture que j'aime beaucoup, c'est l'impressionnisme. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est que l'impressionnisme ?
C'est quand il dessine des choses, mais on ne sait pas vraiment ce que ça donne et que...
C'est très bien. C'est quand le rendu de la toile marche plus sur les impressions que sur la précision. Vous avez des peintres qui sont d'une précision totale. Les toiles de Léger, par exemple, elles sont d'une précision ou des toiles... Quand vous regardez des Cézanne ou quand vous regardez des Monet, vous avez l'impression que vous avez un jardin fleuri, plein de trucs. Mais quand vous le regardez de près, vous rendez compte que ce sont en fait des taches. Des taches et des trucs d'impression, des taches, des ombres et tout. Il n'y a rien de... Et plus on s'approche, plus on s'aperçoit que rien n'est précis. Et plus on s'éloigne, plus on est ébloui par le rendu, par l'impression. Voilà, moi, je suis très impressionniste.
À notre âge, qu'est-ce que les professeurs écrivaient sur vos bulletins ?
Qu'est-ce que les professeurs écrivaient sur mon bulletin ? Nul. Ferait mieux de penser à autre chose qu'aux études. Insupportable. J'étais pas très rebelle. J'étais un passif de la rebelle. C'est-à-dire, j'étais inatteignable. Je planais à des hauteurs où... voilà. Alors, c'était très, très désobligeant. J'avais un pion dans ma première cinquième. Kerr, il s'appelait. Et à l'époque, les pions, c'était des pions de métier. Hein. C'était pas comme on a maintenant, comme j'ai fait moi pendant 2-3 ans, des braves étudiants qui gagnaient leurs sous comme ça. Donc c'était des espèces de bon. Le lundi matin, quand j'arrivais, ostensiblement et devant toute la classe, il écrivait un bulletin de colle pour le jeudi suivant à mon nom, sans mettre le motif et sans le signer. Et le bulletin de colle, il était là et il attendait. Évidemment, il était rempli une heure plus tard parce que c'était pas possible de résister à un truc pareil. Voilà, voilà à peu près.
Est-ce qu'on vous reconnaît dans la rue ?
Hein ?
Est-ce qu'on vous reconnaît dans la rue ?
J'ai bien compris. Ça m'est arrivé une fois. Je venais de participer à une émission deux fois. Et les deux fois, c'était après avoir participé à une émission de télé. Et la première, c'était évidemment Nulle part ailleurs. J'étais invité à Nulle part ailleurs sur Canal. Et je reprends le métro pour rentrer chez moi. Plic ! Non, là, je n'ai pas rentré le métro. Ils m'ont raccompagné en voiture jusqu'à la maison, parce que Nulle part ailleurs, vous raccompagnez en voiture. Et en sortant de la voiture, au moment où j'allais rentrer dans mon immeuble, il y a quelqu'un qui m'a reconnu. Et une autre fois, j'ai participé à une émission de Mattei sur la... Je me rappelle la 2 ou la 3, je crois. Et je m'étais mis en colère, évidemment, contre je ne sais pas quoi. Contre le gouvernement, sans doute. Et je prends le métro pour revenir, et là, il y a deux types qui sont venus. Ouais, vous avez raison.
De quoi parlera votre prochain livre ?
Alors, tu sais, dans les livres, dans les romans, il y a toujours plusieurs entrées, plusieurs... Et là, il m'est arrivé une chose très, très drôle. Vraiment. Un jour, je reçois un coup de téléphone, il n'y a pas longtemps, d'un monsieur qui se dit généalogiste, et c'est-à-dire qu'il recherche la généalogie des gens. Et lui, c'était un généalogiste qui travaillait avec les notaires. C'est-à-dire que quand il y avait des héritages et qu'on ne trouvait pas les héritiers, lui cherchait les héritiers. Et il me dit, voilà, est-ce que vous êtes M. Rénal ? Oui, Patrick, oui, fils de oui, oui. Hein. Ben voilà, on vous cherche parce que vous avez hérité d'un... Et moi, alors, évidemment, avec l'imagination débordante que j'ai, pendant 3 mois, je me suis imaginé milliardaire, en gros. D'autant que j'ai à côté de mon lit une photo d'un monsieur du début du siècle, mais pas de celui-là, l'autre, 1900, d'un monsieur en casque colonial, comme ça, entouré d'une armée de petits noirs habillés proprement, tout à fait l'image du colonisateur qui a fait fortune. Et c'était mon oncle, mais que j'ai jamais connu, mais c'était un oncle que je l'aimais bien, parce que c'était l'oncle qui avait fait scandale dans la famille, qui, au lieu d'être devenu membre du Rotary et je sais pas quoi, enfin, n'importe quoi, il avait disparu en Afrique et plus personne n'avait son idée. Et moi, il me plaisait, donc évidemment. J'ai fantasmé sur lui jusqu'à l'âge respectable de 75 ans, quand même. Et je m'étais dit dans ma tête, ça y est, c'est de lui. Il a fait fortune en Afrique. Tout ce que disait la famille sur lui avait raison. C'est un fou furieux. Mais là, et bon, voilà, je vous la fais courte. J'ai hérité de 150 euros. Enfin, 300 euros divisé par deux avec ma sœur. Voilà, ça vaut le coup de le raconter. Hein. Ouais, ouais.
Alors, dites-nous, Monsieur Rénal, cette histoire de prison, là, ça nous surprend un petit peu qu'un écrivain fasse un petit tour, un petit séjour en prison. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ça dans le détail, s'il vous plaît ? Nous sommes tous curieux de savoir.
Oh oui, j'appartenais à un groupe qui s'appelait la gauche prolétarienne, et qui était de tous les groupes gauchistes en vigueur à l'époque, le plus actif, le plus sauvage. Disons qu'on se préparait, on avait en tête un jour l'idée qu'on pourrait un jour prendre les armes et se révolter contre le gouvernement, prendre le maquis, enfin tous ces trucs-là, on y croyait ferme. Enfin, avec le recul, je ne sais pas si on y croyait ferme. Enfin, on y croyait et on faisait des actions qui étaient des actions très, très en avance. Symbolique, mais très en avance. On était rentré, par exemple, on avait fait toute une campagne contre. Je vous parle des choses contre la psychiatrie qui, à l'époque, était quelque chose d'extrêmement dur. C'est-à-dire la façon dont on internait les fous, dont on jugeait qu'ils étaient fous, dont les coupait du monde et tout, était quelque chose de carrément concentrationnaire et qui était terrible. Et donc, on avait décidé de faire une campagne pour la psychiatrie moderne et contre cette psychiatrie. Et donc, on avait attaqué l'hôpital psychiatrique de Nice, Sainte-Marie. On s'était introduit subrepticement, comme on dit dans les bons romans policiers. On s'était emparé de toutes les clés et on avait jeté les clés dans le paillon qui est le ruisseau qui passe à Nice. Alors, ça, c'est un truc. Le deuxième truc, on avait attaqué... c'était toujours des attaques qu'on menait. Le CROUS, qui est le Centre Régional des Œuvres Universitaires et Sociales, si je me souviens. Pareil. Alors, on avait fait ça déguisé avec des masques de clown. Bon. On avait multiplié un certain nombre d'attaques, comme ça, très, très symboliques, et évidemment très symboliques de la... On attaquait ce qu'on considérait, à juste titre, quand même, comme les symboles du pouvoir, mais pas... je vous dirai jusqu'où on est allé. Les symboles du pouvoir, c'est-à-dire que le CROUS, c'était le symbole du pouvoir de l'État sur l'université. L'hôpital psychiatrique, c'était très simple. On en a fait d'autres comme ça. Et on avait même, pour finir, attaqué un commissariat de police à Marseille, au cocktail Molotov. Et au bout d'un moment, ça a pesé. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment... l'État, le gouvernement en a eu ras-le-bol, et comme ils ne pouvaient pas, ils avaient fait des enquêtes sur chaque attaque, mais comme on était très très bien organisé, hein. Comme on était, par exemple à Marseille, le commissariat a été attaqué par les étudiants de la gauche prolétarienne de Nice, alors que les étudiants de Marseille, eux, avaient des alibis pas possibles. Quand la police est allée voir les mecs de Marseille, ils disent, bah non, non, Et ils n'ont pas eu l'idée d'aller à 10. Voilà. Donc, et au bout d'un moment, ben, ils en ont eu un peu ras-le-bol et ils ont multiplié toutes les enquêtes. Et ils ont dit, bon, ben là-bas, il y a deux meneurs, Rénal et Rebo, et on les fout au trou. Et ils nous ont foutu au trou. Moi, ils m'ont foutu au trou pour un des seuls trucs que je n'avais pas commis. C'est pas injuste. Là, c'est là où on se dit, honnêtement, hein, même, on se dit, bon, ben d'accord, c'est pas moi, mais enfin, ça aurait pu être moi. Et de toute façon, ils m'ont pas chopé pour le reste. Alors, c'était pas un truc qu'on n'avait pas commis. C'est-à-dire que les fachos, l'extrême droite, avaient attaqué la fac de Nice à coups de galets. Ma femme a été blessée. Et du coup, on les a chopés une autre fois et on leur a foutu une raclée à coups de manche de pioche et on a foutu le feu à une de leurs voitures. Et j'étais pas là. Et j'ai été attaqué pour ça parce que un des mecs en question a dit oui, c'est Rénal qui a foutu le feu à ma voiture. Mais attends, ça aurait pu être n'importe quoi. On aurait pu m'accuser d'avoir fait un truc à monter vidéo. Hein. C'était voilà, il fallait absolument en mettre deux au trou, et c'était nous.
J'ai encore une petite question, Monsieur Rénal. Vous êtes un écrivain engagé. Vous êtes spécialiste du roman noir. Vous défendez des idées. Parfois, vous dérangez. Est-ce que vos livres sont interdits dans certaines villes de France ?
Oui. Oui, ils sont interdits chez Bompard, chez Orange.
Vous pouvez préciser les idées de ces personnes
C'est Bompard, hein, j'ai la mémoire qui... Bompard, qui est un maire de la ville d'Orange depuis un bon moment, est un type qu'on appelle... C'est un facho, c'est un membre du Front National... et même encore un peu plus loin, et il a profité du fait qu'il était maire pour interdire un certain nombre de livres d'auteurs dans toutes les médiathèques et les CDI de la ville d'Orange. Alors comme je suis créateur avec mon ami Jean-Bernard Pouy d'un personnage dont vous avez peut-être entendu parler qui s'appelle Le Poulpe, et qui lui est franchement toxique, hein, Le Poulpe, pour le pouvoir... Les poules sont interdites, tout est interdit. Voilà. C'est une sorte de légion d'honneur qui nous a donné. C'est-à-dire que si j'avais été dans les bibliothèques de Bompard, j'aurais été honteux. Et là, je suis interdit.
Dernière petite.
Ah ouais, mais...
Dernière. Est-ce que vous connaissez tellement bien les armes, Monsieur Rénal ? Aimez-vous les armes ?
Non. Non, j'aime pas les armes, mais j'ai un gros manuel à la maison où, quand il faut que je... Pour ne pas dire de bêtises, quand il y a un de mes personnages qui est armé ou un truc, je cherche... Alors, j'aime pas les armes au sens... Mais c'est vrai que peut-être, comme beaucoup de garçons, la perfection, le poids... je suis un peu fasciné par les armes. Chaque fois que j'ai eu une arme entre les mains, j'ai été fasciné par la... Voilà, aussi bien par son pouvoir de mort que par son pouvoir de défense, que par son esthétique, son poids un peu particulier. C'est lourd, c'est dense, c'est impressionnant. Évidemment. Je suis impressionné, oui, par les armes. Mais je suis pour l'interdiction des armes complètement. J'allais vous dire, j'en aurais jamais une à la maison, mais je peux pas vous dire ça. Je peux pas vous dire ça parce que si un jour il est nécessaire d'avoir une arme chez soi pour des raisons politiques, j'en aurais une. Voilà.
Merci, Monsieur Rénal, pour votre intervention et pour le temps que vous nous avez accordé. Et merci aux éditeurs pour votre écoute.
Eh bien, merci à vous pour vos questions très pertinentes. Et merci pour ce très bon moment que j'ai passé. De rien. Invitez-moi, je reviendrai.
D'accord.